poilu.
Nous habitons dans une vallée au bord de la rivière. Le jour, les couleurs se mélangent, chahutent. Plus tard, avant de s'éteindre, le soleil embrase le ciel. La nuit tombe, à l'infini. Je suis minuscule et géante à la fois. La nature nous observe, je la sens. Je sens son silence, ses mystères et des choses invisibles à mes yeux d'humain. J'entends les rires dans la cuisine, la nuit qui frissonne, la chute des papillons, le petit pas des chats. J'ai le cœur gonflé, ma vie d'avant me manque. Un voile chaud recouvre mes joues et je vois briller au loin les lumières du village. Ce très beau texte, il est tiré d'un album qui s'appelle « Au loin les lumières » d'Elie Suellic et je crois que Véro va nous en parler tout à l'heure.
C'est ça.
Bonjour Véro.
Bonjour Monsieur Simon.
Bonjour Sarah.
Bonjour.
Nous accueillons Sarah aujourd'hui. Sarah, tu es apprentie à la librairie Aime Lire.
Oui.
Et nous sommes ravis de t'accueillir dans cette émission.
Moi de même.
Voilà. En plus, c'est l'ouverture de la nouvelle saison dans les Quanou.
On a des saisons maintenant.
Ouais, c'est la sixième saison.
Waouh, sixième. Je sais pas comment vous calculez ça, Monsieur Simon.
Il y a 55 émissions divisées par... Pas tout à fait 12.
Ah oui, c'est comme ça.
Ça fait
oui.
Six saisons.
C'est saison, quoi.
Sixième saison dans l'Iquanou, quand même. Donc ça, on peut déjà remercier tous nos auditeurs, quand même, de nous suivre depuis toutes ces années.
Merci à vous.
Et 55 émissions, ça en fait des livres qu'on a présentés, quand même.
Peut-être qu'un jour, on les réunira tous, ces livres.
Ah, peut-être, c'est une bonne idée. Oui. Au moins, on pourrait déjà les lister. Mm. En tout cas, sachez qu'on est très, très content de vous retrouver une saison de plus pour parler littérature jeunesse, de toutes les littératures jeunesse. Donc, cette année, on va parler, comme d'habitude, des livres pour les tout-petits, des livres, des albums, des romans pour les grands, des young adultes, des bandes dessinées, de temps en temps, des documentaires quand ils nous plaisent. Parler aussi de l'actualité de la littérature de jeunesse. Voilà, il y aura des chroniques comme d'habitude, de temps en temps des interviews d'auteurs quand on aura la chance d'en rencontrer.
C'est une richesse folle.
Voilà. On retrouve évidemment Madame Véro qui sera présente tout au long de cette saison.
Et oui, tout et à oui, fait. Oui, oui.
Sarah, peut-être que tu viendras nous voir aussi dans plusieurs émissions.
Oui,
on espère bien en tout cas. En tout cas, on t'accueille avec vraiment, on te souhaite une très bienvenue. Et puis voilà, on espère que notre émission vous plaira toujours autant. Alors on va commencer comme d'habitude avec un petit peu de musique. Hein. Donc pour cette petite route de rentrée, je pensais à un petit abécédaire. Je me dis que c'était
quelle bonne idée.
C'est un peu de saison, on va dire. Hein. C'est la saison de la rentrée. Et j'ai pensé à l'abécédaire de Vian, de Boris Vian.
Qui ne doit pas être un abécédaire traditionnel, sans
non,
doute.
Tout à fait. En fait,
connaissant
il a écrit en 1957 un abécédaire. Et cet abécédaire, en fait, c'était un petit peu pour s'amuser, pour les enfants, voilà. Et donc il a choisi 26 prénoms. Qui commencent tous par une lettre de l'alphabet, donc c'est 26 lettres de l'alphabet, et à chaque fois il fait un petit jeu, une sorte de petite virelangue autour de ce prénom, et tout ça, ça a été mis en musique par une musicienne qui s'appelle Lucienne Vernet, et qui l'a fait interpréter par, à l'époque c'était les Quatre Barbus, donc là ça va être
un peu plus moderne.
Ça a été un peu remis au goût du jour, et c'est Debout sur le Zinc, le groupe Debout sur le Zinc, qui a fait l'adaptation de manière un petit peu plus moderne, et oui, c'est ce qu'on va écouter, là c'est publié chez Gallimard Jeunesse, un livre CD, et on va écouter les lettres A, B et C.
D'accord.
Hey !
Salut, ça va ? Très bien, et toi ?
Eh ouais, super !
Bon, qu'est-ce qu'on fait ?
Bah, je sais pas, on commence par quoi ?
Et je crois qu'on commence par A comme Anatole.
Ah !
Comme Anatole.
Anatole avait un âne, Anatole avait un âne, qui aimait les ananas, qui aimait les ananas, les abricots, les abricots, les artichauts, et tout ce qui commençait par A. Anatole, quel drôle de gars, ah ah ah.
B, comme Blatt ?
Oh non !
Comme Berthe alors ?
Berthe met ses bas et son bonnet brodé, se balade au bal pour danser la bourrée. Berthe est belle et blonde, elle aime le beau Bastien, qui a des bottes, 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 et qui bondit si bien.
Youhouhouhou !
C.
Comme Christophe ?
Non, non, comme Célestin.
Célestin cache des carottes dans les champs de choux de la cousine Charlotte. Célestin change de chapeau car il est coquet comme un coquelicot.
Et voilà, ce bon Boris Vian, en fait, qui nous offre donc ces petites, ce petit abécédaire pour les enfants. Donc c'est publié chez Gallimard dans la collection des livres CD. Ça vient de ressortir, en fait, parce que les ogres de Barbac, non, Debout sur le Zinc, avaient déjà créé, en fait,
c'est vrai que ça ressemble.
Un concert, un spectacle autour de cette création de Boris Vian. Ils ont fait un tas de concerts, d'ailleurs, avec ce spectacle, et là, ils viennent de le refaire, et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle version. Donc, Gallimard ressort un CD. Cette fois-ci, le livre va être illustré par Amélie Fallière, et c'est vrai que c'est une très belle mise en image, en fait, des petites comptines de Boris Vian, mais on va en écouter d'autres pendant l'émission. Ce sera notre petit fil conducteur, comme d'habitude. On commence tout de suite avec, évidemment, jingle.
L'actualité.
Rature de la jeunesse. Là. Et oui, Sarah, il y a
et
des jingles.
C'est le jingle du pauvre.
Peut-être que tu ne savais pas, mais tu pourras participer.
On n'a jamais osé toucher à celui-là.
Non, celui-là, il reste toujours vocal. Voilà, c'est ça. Et effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité rature de la jeunesse?
Je vous le demande en mille.
Cet été, il y a eu une petite polémique et j'avais très envie de revenir dessus quand même, parce que c'est pas rien quand même.
Ah bah non, c'est pas rien.
Donc pour ceux qui étaient en vacances, ce qui est normal pendant l'été, en fait, c'est ce qu'on fait normalement, il y a eu un livre qui s'appelle Bien trop petit. Ce livre, il est écrit par Manu Kos. C'est publié dans la collection L'Ardeur, dont on a beaucoup parlé dans cette émission, plusieurs fois.
Oui, on a
publié chez Thierry Magnier. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, L'Ardeur, c'est une collection qui est destinée aux grands ados, hein, puisque il y a un petit signal qui dit que c'est pas pour les moins de 15 ans, donc c'est vraiment une collection qui s'adresse aux young adultes, on va dire, à partir de 15 ans. Et l'idée de cette collection, c'est de parler de la sexualité, du corps, de la sensualité, mais d'une manière réaliste, en fait. C'est-à-dire de demander à des auteurs contemporains, de s'approprier ce thème-là, et de proposer des textes littéraires autour de ces thématiques-là. L'idée, évidemment, sous-jacente, c'est de proposer une autre forme de sexualité que celle qui est proposée notamment dans la pornographie ou dans d'autres médias.
D'autres images, voilà, que celles qu'on a habituellement.
Et puis dans la littérature aussi, parce qu'on sait que notamment, on en avait parlé un petit peu l'année dernière avec Julie. Mais
Julie, sur la dark romance.
Sur la dark romance, voilà, qui véhicule des idées qui sont quand même pas terribles en termes de féminisme et en termes de respect du corps. Donc cette collection, justement, elle est là pour ça. Et Bien trop petit, c'est un texte de cette collection qui est plutôt drôle, d'ailleurs ça fait partie des ouvrages qui sont plutôt, je crois que tu l'as lu, Sarah.
Oui, ouais. Oui, je confirme.
Et c'est un livre qui parle de sexualité, mais qui parle surtout d'un garçon un peu mal dans sa peau, qui est un peu, comment dire, qui
complexé.
Un peu complexé, c'est ça, sur la taille de son sexe, et qui va s'inventer tout un monde. Voilà, donc c'est un texte qui fait du bien, qui est plutôt là pour déculpabiliser, pour
dédramatiser
les situations, effectivement, et puis qui est vraiment drôle, quoi. Et ce texte, voyez-vous pas que pendant l'été, en plein milieu, l'été en plus genre le 14...
Pendant que vous étiez en vacances, monsieur.
Pendant que j'étais en vacances, tout à fait. Voilà. Non, mais n'importe quoi.
Ah ouais, mais voilà.
Eh bien, un certain ministre de l'Intérieur, monsieur D, on l'appellera, décidé d'interdire ce livre aux moins de 18 ans. Alors la question qu'on a envie de lui poser, c'est pourquoi ce livre? C'est-à-dire que ce livre qu'on a lu, qu'on a apprécié, qu'on a défendu, est-ce qu'il méritait vraiment de passer sous le joug des moins de 18 ans? Ça, c'est la vraie question qu'on se pose. Alors nous, on a évidemment une réponse qui est évidemment que non, puisque si on n'en parle pas à 15 ans de ces sujets-là, on va en parler quand? C'est pas pour...
Et puis on en parle ailleurs d'une autre façon assez terrible.
C'est ça, et puis la sexualité des adolescents, si on en parle quand les personnes ont 50 ans, ça a beaucoup moins d'intérêt.
Oui,
quoi.
C'est vrai, c'est pas faux.
Donc ne pas parler de ce thème-là avec des ados, c'est un peu se voiler la face, et effectivement, par contre, c'est les confronter de pleine face, parce qu'on ne fait rien du tout pour lutter ni contre la pornographie, ni l'accès sur Internet, ni effectivement la dark romance, enfin, tous ces sujets-là, on les oublie complètement, pour mettre le focus sur un livre qui... Alors, on va dire, au moins ça aura mis le focus dessus.
Paradoxalement.
C'est vrai que ça nous a permis d'en parler.
Ouais. Bah là, je pense
et voilà. Permis sûrement d'augmenter, enfin de sortir l'ardeur de sa niche aussi.
Oui, ça c'est vrai. C'est, ça a permis de beaucoup de libraires, de bibliothécaires, de médiateurs, de mettre en avant cette collection et d'affirmer pourquoi elle était si importante. Donc ça c'est plutôt le point positif. Mais exactement comme ce qui s'était passé avec tout sa poêle.
Et Monsieur Copé.
C'était Monsieur JFC.
JFC.
Voilà, qui avait fait la même polémique. Et c'est vrai que ça avait permis de parler de ça, mais malgré tout, il y a quand même un auteur, la Manu Kos, on pense à lui fortement, on pense à toi Manu, qui prend ça quand même en pleine tête.
Oui, 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 c'est vrai.
C'est assez violent, et puis il ne faut pas oublier non plus que c'est interdit, ça veut dire que ça enlève ce livre quand même des collèges, des CDI, de pas mal de lycées, de bibliothèques.
Du secteur jeunesse des bibliothèques.
Voilà. Et donc ça, ce n'est pas sans conséquence, notamment pour les jeunes qui ne peuvent pas acheter des livres. C'est-à-dire que toutes les parties gratuites qui permettaient de proposer ce livre-là sont maintenant interdites pour celui-là. Donc c'est quand même pas rien.
Et donc, c'est un représentant de l'État qui décide d'une censure.
Quand même.
Sans raison.
En tout cas, il y a une commission, mais la commission a accepté ça. Donc voilà. Nous, en tout cas, chez Jean-Luc Onyou, on s'interroge sur cette mesure. On fait plus que s'interroger, je ne vous le cacherai pas.
On s'énerve un peu.
Et donc du coup, on avait envie de reparler de ça, parce que même si effectivement ça fait deux mois, je pense que c'est important de garder un œil sur ça, parce que c'est assez grave.
Tout
et effectivement,
fait, ouais.
On a envie de leur dire que ça ne se passera pas comme ça.
Eh ben non.
Voilà.
Ils ne connaissent pas.
Maintenant qu'on a poussé notre petit... Ah, ça nous a mis bien en joie pour notre rentrée. On va parler d'albums, forcément. Et comme d'habitude, on commence avec les plus jeunes. Et ben, je garde la main, puisque c'est moi qui vais présenter cet album. Cet album, ça s'appelle 3, 2, 1...
Zéro.
Go
ah,
Véro,
je vais
gros, pas commencer cette année encore.
Désolé.
Non, 3, 2, 1...
Go!
Voilà, c'est le nouveau livre de Delphine Bournet, publié à l'École des loisirs. Alors Delphine Bournet, on est vraiment très très content de la retrouver. On avait déjà adoré l'année dernière La forêt sombre et profonde. Dans La forêt sombre et profonde, c'était, vous vous souvenez, c'était ces
petits
louveteaux.
Qui
voilà, c'est ça. La maman qui voulait absolument les calmer.
Des histoires.
Et puis les petits loups qui étaient là. Des histoires.
Ouais, bah, et la maman qui... bien les petits loups, j'adore.
Ah non, c'était génial. Eh bien, on retrouve cet humour complètement déjanté avec un frère et une sœur, cette fois-ci, c'est Fantawa et Bamfolé, qui sont deux sœurs grenouilles, et qui ont décidé, enfin c'est le grand frère surtout, de créer une petite télécommande magique qui permet d'aller dans l'espace. Et là, c'est de voler carrément tout ça. Donc forcément, il confie à sa sœur la télécommande qui permet de manier ça en lui disant, bon, c'est moi qui commence comme ça, mais surtout, tu touches à rien, hein, tu touches juste les boutons que je te dis toucher, c'est bon. Donc c'est bon, ils sont prêts. 3, 2, 1, go! Hop, et voilà, et ils s'envolent dans les airs, et c'est parfait, le monde est génial comme ça. Sauf que la petite Fantawa, elle s'ennuie un petit peu, et puis la télécommande, elle est quand même... Elle est jolie, mais il n'y a pas beaucoup de boutons, quoi. Donc elle va faire la chose interdite. Ce que lui avait dit vraiment de ne pas faire, hein, son frère, c'est-à-dire, elle prend les ciseaux. Elle découpe la télécommande. Et puis après, elle prend le scotch et elle refait des bouts plus grands. Et puis elle refait complètement la télécommande.
C'est possible, ça ?
Ouais, ouais. Elle recrée des nouveaux boutons. Et dans les nouveaux boutons, il y a par exemple, il y a le ch'tong. Le ch'tong, c'est on reste bloqué comme ça. Et donc le pauvre, il va rester bloqué comme ça. Et en lui demandant, mais qu'est-ce que t'as fait ? Voilà. Bon, je ne vais pas vous dire toute l'histoire. En tout cas, c'est un livre à rebondissement où il se passe plein de choses à raconter à haute voix. C'est un bonheur. Franchement, on s'éclate à le lire. Et puis c'est vrai que ces deux petits personnages, ils sont très attachants. La jeune sœur, elle est parfaitement coquine en fait. Elle arrive bien à jouer avec toutes les interdits de son frère pour bien arriver à ses fins. C'est très très drôle et franchement c'est un album qui est savoureux à lire, quoi.
La télécommande, c'est une thématique de la rentrée. C'est juste parce que j'ai catalogué un album cet après-midi. Alors, j'ai ni le titre, ni l'auteur, rien du tout. C'est un petit cartonné carré.
Ah, oui.
Et c'est un lapin ou je ne sais pas quoi qui joue sur des boutons de télécommande.
Fait.
Et il est très chouette, cet album.
Oui.
Je me dis, la rentrée, le thème de la rentrée 2024-2023, c'est la télécommande.
D'accord.
Fallait le trouver quand même. Ouais.
Je dirais plus les grenouilles, parce qu'il n'y a pas d'histoire de grenouilles. Mais bon, ça peut être des télécommandes avec des grenouilles.
Voilà,
si on en
c'est
envie,
plus compliqué.
Il
n'y
a pas de problème. Bon, en tout cas, ce 3, 2, 1, go de Delphine Bournet, on vous le conseille fortement. C'est absolument génial. On enchaîne avec les un petit peu plus grands, un album pour les un petit peu plus grands. Et Sarah, c'est toi qui vas t'y coller avec un très bel album qui s'appelle « Un oiseau juste là ».
Alors, donc j'ai effectivement choisi de vous présenter « Un oiseau juste là ». Donc... écrit par Émilie de Chazeran et illustré par Marie Legima. Alors, un petit résumé de l'album. Alors, cette histoire... Alors, À nos yeux, juste là, c'est l'histoire de Bernard, un petit homme chic et raffiné, qui, complexé par son crâne aussi grand qu'une coquille d'œuf, collectionne les chapeaux. Mais voilà qu'un jour, alors qu'il enlève son couvre-chef pour saluer une dame, un petit oiseau élu domicile sur sa tête, juste là. Bernard, gêné d'attirer l'attention sur son absence de pilosité crânienne, à cause de son nouveau colocataire, va alors se retrouver bien embêté. Alors, comme à son habitude, Émilie Chazeran nous a concocté un album plein de tendresse qui rentre parfaitement en résonance avec les illustrations raffinées aux couleurs pastel de Maria Legima. Le texte aussi drôle que touchant nous parle d'amitié et de l'importance de dépasser ses complexes. J'ai tout bonnement adoré. Sans oublier le petit côté british. Qui est très,
le personnage, il
très
a avec son petit chapeau, là, il est très très mignon quand même.
Donc voilà, très gros coup de cœur.
Ouais, et puis le texte d'Émilie Chazeran, il est vraiment juste. Enfin, il arrive à avoir à la fois de la tendresse pour son personnage et en même temps cet humour un peu anglais aussi qu'elle a, hein, qu'on retrouve. C'est un très très bel album effectivement publié chez Arbacane. Et puis ce dessin, moi j'aime bien en fait.
Oui, ça, je trouve que ça rentre parfaitement dans l'écrit, enfin non, avec.
Ça répond super bien avec les thèses de Chazeran, ouais, tout à fait. Ça s'appelle Un oiseau juste là, publié chez Sarbacane. Allez, on y va ?
On y va.
Il est de retour, hein. Vous l'avez peut-être oublié, mais non, il est toujours là. C'est le vrac de Véro,
ouais,
ou alors peut-être Véro en vrac.
Pire en pire, et elle est pire en pire.
Voilà. Donc là, c'est plus un, c'est pas deux, c'est pas
plein.
Trois. C'est
plein.
C'est sept albums qu'elle va nous
présenter.
Je vais
même passer un tout petit peu plus de temps sur deux.
D'accord.
Promis, je vais vite. Au loin, les lumières. Monsieur Simon nous a fait une petite lecture du début de cet album. Un très, très, très grand coup de cœur. Un album d'une beauté folle, d'une beauté brute et sauvage, d'une beauté animale, comme qu'on est fasciné par la vue d'une panthère ou d'un tigre qui se déplace dans son habitat naturel. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai cette impression de nature infinie. Et c'est deux petites filles qui habitent cette nature et dont les parents sont partis de la ville, ils sont partis du village, de la ville, et sont un petit peu sur une colline. Et ils voient le village, ils voient le village au loin, et elles voient ces lumières, elles voient cette civilisation, on va dire, pendant qu'elles baignent dans une nature plus ou moins sauvage, mais magnifique, sublime. Donc le texte est très très beau. L'album est découpé en petits chapitres, et au début de chaque petit chapitre, il y a des haïkus, j'allais dire des petits ou des légers haïkus, mais le haïku par essence est petit et léger, mais qui sont d'une puissance pareille.
La fraîcheur du vent, elle tombe, se relève et le ciel s'ouvre.
C'est très très beau. C'est magnifique. On plonge avec, et puis on plonge dans notre enfance parce qu'on a tous un petit bout de campagne quand même en nous, un petit bout de nature, même si on a été élevé sur du bitume. Et moi j'étais un peu sur du bitume, mais je rêvais de nature totalement. Et dès que j'avais un petit bout, je me plongeais dedans, je me fondais dedans, que ce soit une rivière, que ce soit, enfin voilà. Et c'est cette petite fille et sa sœur. On apprend que ce sont des jumelles au fur et à mesure. Donc il y a énormément de thématiques. Il y a la gémelléité aussi. C'est d'une humanité folle et d'une sauvagerie naturelle folle aussi. C'est l'humain et la nature qui se rencontrent et c'est fabuleux. Enfin, moi, je suis totalement emballée. Et les illustrations. Alors, moi, j'ai été voir une interview de. Alors, on dit Ellis Wilk. Voilà ça, qui explique qu'elle a utilisé des photos de famille qu'elle a intégrées.
Des photos retouchées. En fait.
Voilà, photos retouchées, intégrées sous forme de collage sur des impressions aussi, des couleurs aussi magnifiques, mais des couleurs de nature. Quoi. On est vraiment. Les mille couleurs de la nature sont là, et ces petites filles sont au centre de cette nature, et elles vont grandir grâce à cette nature, elles vont sentir, ressentir. C'est un album de vie, quoi. Je sais pas. Voilà. Je m'arrête là.
Non, c'est très beau.
Je m'arrête là, mais il est trop beau. Il est trop
beau. Je crois qu'on aura compris que c'est un coup de cœur.
Vous
rappelez quand même le titre et
Ça s'appelle Au loin les lumières. J'ai même pas dit que c'était chez Versant Sud. Voilà. Voilà. Et d'Elis Wilk. Et je passe à, que je retrouve ma petite feuille, une glace à la mer, d'une collection qu'on commence à connaître un peu, qui s'appelle Les Petits Bonheurs de Charlie Blossom. Et c'est Camille Ossini et Julia Arnal chez Glénat qui ont écrit Une glace à la mer. Donc je mets, ferme les yeux, tu es en voiture, ferme les yeux, voilà. Tu es en voiture, les fenêtres sont ouvertes, l'air est doux, tu respires à plein poumon, l'arôme du monoeil de maman mêlé à l'iode inonde tes narines, le parfum que tu préfères, celui des beaux jours. Les mois de jacasse dans le ciel et là, on tourne la page, double page, je sais d'y arriver comme ça. Là, ça vous est tous arrivé d'aller à la mer et hop, au détour de la route. Le truc immense et bleu qui vous arrive comme ça et plus rien n'existe d'autre. Voilà. Là, juste de l'autre côté de ce désert ocre, elle s'étend à l'infini jusqu'au ciel. Voilà. Donc Julien Arnal réussit à nous faire ressentir l'excitation intense que nous apporte la vue de la mer. D'un coup, plein les yeux, il n'y a plus qu'elle qui compte. Les perspectives de notre vie deviennent subitement infinies. Cette sensation de... du temps qui s'arrête. Maman, on peut enlever les chaussures. Donc, et il y a tous les désagréments d'une journée à la mer aussi. Le barda à transporter, l'emplacement à trouver, le soleil apprivoisé, le sable qui gratte. Tout cela est gommé par l'attraction de la mer scintillante qui ne semble jamais cesser nous attendre. C'est beau ça aussi, j'ai bien aimé écrire cette phrase. Alors, tu te coules dedans, c'est froid, c'est bon, c'est enivrant et tu fais la planche. Et de là, tu peux rêver, le ciel t'appartient. Donc c'est vraiment un très très bel album. Les mots cool comme la mer, enfin, c'est vraiment très très beau. Les dessins sont pleins de lumière. Et c'est un livre qui fait du bien aussi, c'est un livre bon comme un dimanche à la mer.
Mais c'est un livre qui n'est pas du tout un livre de rentrée, on est d'accord, on a plutôt très envie de repartir en vacances quand même.
Moi je m'en fiche, mais alors totalement. Dans une autre vie j'ai été enseignante, mais alors là je m'en fiche.
Non mais c'est un livre qui prolonge les vacances, c'est ça.
Mais complètement.
Mais la collection est vraiment super. Hein. Et Julien Arnal...
Ouais, il vient d'en avoir un nouveau là.
Bah, en fait il y en a pas mal qui sont sortis, et c'est vraiment un auteur qu'on aime beaucoup, même en bande dessinée, ce qu'il a fait avec Anne Montel. C'est vraiment très très beau, La Petite Tortue, là j'ai mangé le titre, mais... La BD tout orange.
En BD, je vais pas vous aider. Ouais. Ça rime ça.
On va essayer de vous le retrouver tout à l'heure, mais en tout cas, c'est vraiment un auteur qui livre après livre crée une vraie belle œuvre en fait, tout à l'aquarelle, tout en douceur. C'est vraiment magnifique.
Et ça fait vraiment vraiment du bien quoi. Alors vite, là, je vais vite. Je mets deux ensemble parce que Timide de Benoît Perrouche et Actes Sud et les Polytopilins. C'est-à-dire d'Elisa Sartori et Nina Neuret chez Thierry Magnier. On est sur la timidité, on est sur ces êtres qui n'osent pas se montrer au monde, qui n'osent pas crier dans les oreilles des autres, qui n'osent pas exister d'ailleurs. Et pour Timide, alors je ne vais pas vous dire la fin, mais c'est une très grande surprise et c'est très très bien vu. Ce petit bonhomme qui passe partout inaperçu, sa maman ne s'est même pas aperçue de sa venue au monde, hein, pour vous dire, il est terriblement émotif et il va d'avarie en échec à cause de sa sensibilité. Mais un jour, il décide de fuir le monde à travers la forêt et au bout d'un long périple, il va enfin trouver sa place. Et c'est la chute. Vous allez voir la place qu'il a, je vous laisse le deviner. Et les polytopilins, ce sont des petites bestioles fascinantes, polies en tout point, mais contrariées d'être aussi méconnues. Et pour sortir de l'ombre, comme Timide, elles vont faire appel aux plus grands spécialistes animaliers pour le meilleur. Donc, surmédiatisation, hein, on y va carrément. Alors, le problème des polytopilins, c'est qu'ils parlent comme ça, parce qu'ils sont très, très, très timides. Et donc, forcément, les animaliers, ils ont du mal à les comprendre. Et après, ils vont être très surmédiatisés et ça va être leur perte aussi. Enfin, leur perte. Ça se finit bien.
On
allez.
Appelle les auteurs peut-être de ces
oh, oui, ben bah oui, ben bah oui. Les polytopilins, Elisa Sartori et Nina Neuret, chez Thierry Magnier, et Timide, de Benoît Perrou. Chez Actes Sud.
Et j'ai retrouvé ma série de BD de Julien Arnal, c'est Armel et Mirko. La petite Luciole et la petite Tortue, chez Delcourt. Voilà.
Mon Shanghai à moi. Alors je me la pète, mais j'étais à Shanghai avec l'amour de ma vie. Et j'ai aimé cette ville parce que ça dépote dans tous les sens. Et là, dans cet album de Angela Monica Lim et Zen Lei Shang, d'illustration de Danara Smolianova, excusez-moi. On est aux éditions du Jasmin. Et rarement j'ai eu des albums comme ça chez le Jasmin. C'est que je me suis retrouvée dans cette ville avec toute cette. Enfin, moi, tout mon ressenti de cette ville en visite. Mais là, on est avec des enfants qui habitent cette ville. C'est la différence de mes visites. Donc, on le voit avec des yeux d'enfant, comme on y était. Des lions dorés sur les toits, croquer dans les fruits du dragon, boire du thé dans un salon au-dessus de l'eau ou des carpes ondules, monter comme une fusée dans la tour de Shanghai, se perdre dans le dédale des vieilles rues, où il y a plein de vieilles échoppes, se fondre dans la foule immense, ça j'ai fait, et saisir les petites xiaolong bao, c'est les brioches, à l'intérieur, il y a de la soupe, et on boit la soupe à l'intérieur. Voilà, c'est plein d'émotions.
Vous avez retrouvé votre jeunesse.
Totalement.
Ça donne envie en tout cas.
Bah oui.
Et c'est marrant parce que c'est vrai qu'on a assez peu de choses sur la Chine.
Oui.
Même pas trop de documentaires.
Mais surtout aussi naturel, je dirais, enfin, sans aller dans le conte, sans aller dans... Là, c'est une vie quotidienne assez incroyable. Les Petits Sabots, Thomas Fersen, sa chanson, et Aurélien Polis, chez Marmaille et compagnie. Donc, la chanson de Thomas Fersen que j'ai écoutée après parce que je ne la connais pas. Alors, je vais être honnête, hein, je préfère franchement la lire, là, comme ça. Vraiment. Parce qu'en la lisant, le texte, à un moment, il dit qu'il tète une biche. Enfin, mais c'est d'une beauté. C'est pareil, je rejoins, c'est dans mon univers nature, là. On plonge dans la forêt, on devient un fan. Évidemment, les illustrations font écho. Moi, j'ai juste dit, comme une douche de fraîcheur dans la torpeur de l'été, c'est exactement ça.
Waouh, c'est beau.
Ah, c'est beau, hein. Alors, je finis sur Mimi, princesse rebelle. J'ai déjà lu ce qu'il faisait parce que ça me fascine, moi, ces miniatures. Alors, c'est Pierre-Jacques Aubé et Jules Aubé au seuil. Et ils ont donc comme technique, ce sont des cinéastes, hein, donc ils ont comme technique de prendre des petites figurines et de les prendre en photo dans un décor naturel. Et ils nous ont déjà raconté l'histoire de Jacqueline, je crois, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation. Et là, on est Mimi, princesse rebelle. C'est l'histoire d'une vraie princesse que j'adore l'histoire et j'adore l'histoire des cours d'Europe, entre autres. Et là, c'est une princesse de la cour d'Autriche, fille de la grande impératrice Marie-Thérèse et sœur de Marie-Antoinette, qui a fini un petit peu. Voilà. Elle s'appelle Marie-Christine et tout le monde l'appelle Mimi. Et c'est vraiment et je confirme, puisque je connais l'histoire de cette vraie princesse. Complètement atypique, qui s'est rebellée contre les conventions de la cour, jamais s'est laissée conduire par des hommes, ou dicter sa conduite par des hommes. Et elle s'est mariée sur le tard par amour aux grandes dames de ses parents et de la cour et tout, par un petit prince inconnu, un truc, voilà. Et elle a été colonelle, enfin voilà, elle avait des idéaux. C'est un vrai récit féministe, merveilleusement porté donc, par le talent de cinéaste de Pierre-Jacques Aubé et la beauté des photos de Jules Aubé. Et qui donne vie à ces petites figurines de plomb avec virtuosité. C'est magnifique, magnifique.
C'est plutôt un album ou un documentaire, du coup ?
C'est un album. Histoire qui est racontée comme ça, c'est un album. Ça
avec
comme
un format presque bande dessinée, quand presque vous l'ouvrez, on voit. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des cases qui sont constituées.
Elle frôle la mort tout le temps, parce qu'elle est quand même très, très intrépide. Et il y a un rapport avec la mort qui est très, très intéressant aussi, et pas pesant du tout. Et extrêmement moderne, une jeune femme. Elle a la chance quand même d'avoir eu des parents, malgré tout, l'impératrice Marie-Thérèse, hein, qui paraît très bienveillant, qui ont essayé de lui laisser cette bulle de liberté pour qu'elle puisse vivre sa vie, quoi. Et c'est très très fort.
Et on est d'accord pour dire que c'est un travail de malade.
Ah, j'imagine.
En illustration,
j'imagine,
en
je
photo.
Me rends. Je me rends. Et puis c'est,
parce qu'en fait,
au niveau
tous
de la prise de photos,
que vous décrivez, effectivement, ils sont mis en scène
complètement,
dans des décors qui sont.
Avec des chevaux
léchés.
Sur des champs de bataille. Et puis avec des expressions. Enfin, je veux dire, ils ont été conçus, ces personnages, c'est pas possible. Enfin, pour l'album, quoi. Là, il y a une expression de du mari de Mimi qui est recueilli, enfin, c'est d'une force.
Puis je trouve que dans le choix du fond noir, ça donne vraiment ce côté cinéma.
Ouais. Cinéma aussi. C'est vrai que c'est ça, c'est ça que j'aime chez eux, c'est qu'on va au ciné, on va voir un film.
Bah là, on a l'impression d'être un peu comme ça, dans un synopsis.
On a l'impression de les entendre.
Le carnet de travail du réalisateur, en fait, avec un film en costume. Et puis,
son mariage très discret, parce que...
Il n'y a pas le making-of, un peu, de tout.
Ben, je crois pas, non.
On a envie d'aller voir.
Mais on peut creuser un peu sur Internet, je pense.
Parce que là, le nombre de personnages qu'il y a, ne serait-ce que par rapport à ça.
Non, c'est... Là, la bataille, hein. Il y a vraiment des batailles. Là, c'est contre son mari, elle n'a pas eu de bol. Mais elle ne voulait pas, mais... Bon, voilà, elle allait jusqu'au bout de ses rêves, ses convictions.
Elle a gagné.
Elle a frôlé la mort. C'est là où la mort intervient. Et l'amour aussi intervient. C'est ça qui est très beau. Très, très beau. C'est une très belle histoire, hein, qui est réelle.
Ben, ça donne envie, en tout cas. Merci, Véro.
Merci à vous.
Eh bien, moi aussi, j'ai un album, et puis même, on n'a qu'à dire que c'est le coup de cœur du mois.
Oh yeah.
C'est le temps. dans les coups de cœur.
Et ce mois-ci, notre coup de cœur s'appelle « Les bêtes sauvages grandissent la nuit ». C'est un texte de Lucie Desobliot, illustré par Marine Schneider, publié au Seuil Jeunesse. Ce soir, la lune est rousse. Alix la regarde depuis sa cabane d'oreiller. La chambre d'Alix est chaude et douillette. Dans la maison, il n'y a pas de bruit. Alix se lève et ouvre la fenêtre. Cette nuit, elle va devenir une bête sauvage. Dehors, les hautes herbes du terrain vague secouent la tête dans la brise fraîche. L'air sent les feuilles d'automne et la terre humide et tiède. Alix bondit et hop, ses pieds atterrissent sur la pelouse que papa a tendue ce matin. Alix bondit de nouveau et paf, elle ricoche sur le chemin de gravier devant le jardin. Alix bondit une dernière fois et souf, le terrain vague avale le bruit de ses pas. Alix se ramasse sur ses mains et ses genoux et elle se met en route à quatre pattes. C'est ainsi que les bêtes sauvages se déplacent. Au milieu de l'océan des hautes herbes, la lumière de la lune a presque disparu. Alix avance, avance, avance et les tiges défilent autour d'elle. Les feuilles coupent son visage, les cailloux écorchent ses mains et ses genoux. Alix avance et les hautes herbes n'en finissent pas. Elles sont de plus en plus grandes, de plus en plus grosses. Alix avance et les hautes herbes se transforment en forêt. Il fait noir et froid ici. Alix commence à être fatiguée, si fatiguée qu'elle s'allonge contre le tronc d'un gros arbre. Elle frissonne et elle pense à la maison, à son épaisse couette douce comme un nuage et au chocolat chaud que maman lui prépare le matin. Et puis Alix pense à l'école et à la pluie froide dans la cour, aux cahiers de lecture qui rendent les histoires ennuyeuses, aux additions qui en mêlent les chiffres et au bus de l'école qui lui fait mal au cœur. Tant pis pour le chocolat chaud. Il y a des choses plus importantes qui attendent. Alix sombre dans un sommeil lourd de bête sauvage. Contre l'écorce rugueuse, la nuit du premier jour, sa fourrure commence à pousser. Quand Alix se réveille le lendemain matin, les feuilles qui murmurent au-dessus de sa tête lui annoncent une belle journée. Alix lape l'eau fraîche des gouttes de rosée sur la petite mousse entre les racines. Elle saute sur ses pieds et rit, et une linotte rose posée sur une branche rit avec elle. Il y a plein de découvertes à faire, des scarabées dorés qui jouent sous les feuilles, des marrons lisses et doux contre la paume, des champignons rigolos qui sentent la noisette ou le feu de cheminée. Alix regrette de ne pas avoir emporté sa loupe, mais les bêtes sauvages ne s'encombrent pas d'outils inutiles. Alix ne voit pas la journée passer. La lumière commence à devenir orange et à allonger les ombres. Le ventre d'Alix gigote et fait des gargouillis. Elle fronce les sourcils et courbe le dos. Il va falloir se mettre à chasser. Alix court entre les troncs. Elle s'arrête, hume et guette. Elle écoute les petits bruits. Mais les souris sont trop rapides, les lézards trop prudents. Alix n'attrape rien. Elle commence à désespérer et son ventre se lamente. Soudain, elle entend des petits pas dans les feuilles mortes derrière elle. Alix ne réfléchit pas, ses genoux se déplient, ses mains se tendent et se referment sur un tout, tout, tout petit oiseau bleu et jaune. Alix se lèche les babines. La cigrelette la regarde de son minuscule œil noir. Son cœur bat très vite entre les doigts d'Alix. Ses plumes sont douces et soyeuses. Alix n'a pas la force de manger une si petite bête. Elle relâche l'oiseau qui s'envole d'un sursaut. De quelle bête sauvage ridicule a-t-elle l'air? Elle pense à la tarte à la rhubarbe de papa qui sort du four et qu'elle a le droit de manger avec de la chantilly. Son estomac se ratatine encore un peu plus. Et puis Alix pense aux choux-fleurs qu'il faut toujours finir et aux betteraves qui font des nœuds dans sa gorge quand elle les avale. Alix s'endort. Elle a encore très faim, mais elle est bien décidée à devenir cruelle et sanguinaire. Les bruits de son ventre s'éteignent et la nuit du deuxième jour, ses griffes commencent à s'allonger. Quand Alix s'éveille le lendemain, la cigrelette est revenue. Elle la regarde avec un sourire malin au coin du bec. Elle a étalé un festin devant elle. Alix et la cigrelette se régalent de ce petit déjeuner de reine. Il y a des baies, des feuilles et des graines. Les bêtes sauvages ne sont pas obligées d'être féroces, se dit Alix, en faisant craquer quelques noisettes sous ses dents. La cigrelette, qui connaît la forêt comme sa poche, lui fait découvrir tous ses coins les plus secrets. le ruisseau d'eau claire des soldats grenouilles, la piscine de feuilles du quartier des Taupiniers, la cabane aux libellules sous les houppliers pleureurs. Elle l'emmène jusqu'à la grande clairière sur le flanc de la colline. Alix retient son souffle. Les rayons du soleil inondent le champ de dronches violets. Chacune des fleurs ressemble à une grosse fée poilue qui lance des étincelles. La cigrelette piaille et pépille et apprend à Alix les mille et deux jeux des bêtes de la forêt. Le cochon sauté, la course au grillon, la bagarre sandwich et la fabrication de pipeaux en bois de meuflet. Le soleil prend tout son temps pour se coucher. La cigrelette raconte à Alix les aventures incroyables du roi de la forêt, le loup blanc aux six queues. Elle lui sifflote des chansons merveilleuses jusqu'à ce que Alix, allongée dans les dronches, rêve que le loup blanc l'accueille parmi ses sujets et la nomme grande conseillère sauvage. La nuit du troisième jour, entourée du ronflement des lucioles, la queue d'Alix apparaît. Les jeux d'Alix et de la cigrelette continuent tout le lendemain. Elle chante et danse avec les champignoles qui organisent ensuite un grand tournoi de tortue-relais. Avec beaucoup de rire, la cigrelette dit au revoir à Alix. Elle doit retrouver sa famille. Elle les a quittés depuis hier et ses frères et sœurs doivent s'inquiéter. En plus, les soirs de lune rousse, il y a de la mousse aux asticots en dessert. Alix s'enfonce dans un champ de maïs pour que les champignoles ne la voient pas pleurer. La cigrelette lui manque déjà. Elle pense à son ami Sam, qui aurait adoré la bagarre sandwich, et à Nico et à Adèle aussi. Il faudra qu'elle leur dise dans l'ordre toutes les blagues que les coccinelles musquées lui ont racontées. Alix tourne en rond parmi les épis de maïs jusqu'à ce qu'il fasse complètement nuit. Alix aperçoit alors une toute petite lumière, très loin devant elle. Elle se faufile entre les épis et la lumière grandit, grossit. Alix émerge du champ et devant elle se dresse un arbre immense qui doit déjà être vieux comme plusieurs arrière-grands-pères. Son tronc est ridé et craquelé de mille ouvertures à travers lesquelles perce une lumière jaune de doux foyer. Une musique joyeuse s'échappe des fenêtres entre les branches. Alix pousse la porte en bois du pied du grand arbre. Ses yeux s'agrandissent comme deux pleines lunes. Des guirlandes de lampions s'étalent sur tous les murs de la pièce. Il y a là toutes sortes d'animaux, épais, maigrichons, joufflus, poilus, qui rient, chantent, parlent et dansent. L'air sent bon l'estragon et le romarin. Il fait rougir les joues et ébouriffe les cheveux. Et la chanson que jouent les trois renards bleus sur l'estrade fait immédiatement fondre la solitude autour du cœur d'Alix. Alix contourne la grande ronde de bêtes sauvages qui dansent devant la scène. Elle se faufile entre les tables remplies de plats fumants. Leur odeur est si riche qu'elle dépose déjà sur la langue d'Alix des saveurs chaudes et épicées. Alix passe sous le comptoir de la dame ours, occupée à essuyer les verres avec un grand torchon à carreaux. On voit bien que c'est elle la patronne ici. Du fond de la gorge, elle chantonne l'air que jouent les renards bleus et Alix entend une de ses grosses pattes arrière battre le sol au rythme de la musique. Alix arrive enfin au fond de la pièce et s'installe sur le plus petit tabouret de la plus petite table pour contempler le spectacle étourdissant de la taverne des animaux de la forêt. Madame Ours, de son œil expérimenté, a déjà repéré sa nouvelle cliente et elle s'approche de son gros pas. « Qu'est-ce que tu bois, petit être ?» demande-t-elle à Alix. Il y a du miel à fines bulles et de la liqueur de bluette. Alix retient son souffle et n'ose pas répondre. Madame Ours approche son doux museau de sa joue. Je vais t'apporter un verre de lait à la cannelle des bois. Mais ne te fais pas remarquer. Hein. Ici, on n'aime pas trop ceux qui vivent hors les arbres. Le lait est doux sur la langue d'Alix et la cannelle lui réchauffe les oreilles. Madame Ours lui a aussi apporté des petits gâteaux à la confiture de sertille qu'Alix se force à grignoter du bout des dents pour ne pas perdre une miette. Alix aimerait rester ici pour toujours sur le regard vigilant et douillet de Madame Ours à écouter les belettes de la table d'à côté raconter les derniers exploits du grand loup blanc, le roi de la forêt. « Mais il y a une petite fille parmi nous !» rugit une grosse voix derrière Alix. Un grand blaireau hirsute pose sa patte griffue à côté de la main d'Alix qui paraît minuscule sur la table. Soudain, la musique s'arrête et toutes les bêtes se taisent. Des dizaines d'yeux et de crocs se tournent vers Alix. « Elle sent encore le goudron et les lampadaires !» dit le blaireau en fronçant le museau. « Je ne suis pas une petite fille !» murmure Alix dans son verre de lait. « Qu'est-ce que tu dis ?» Par le loup blanc. « Je n'entends pas ce que raconte ta toute petite voix de minuscule petite fille !» mugit le blaireau. « Je suis une bête sauvage !» chuchote Alix en regardant la table. Tous les animaux de la taverne se mettent à rire en même temps. Il y a tellement de rires différents que le vacarme est insoutenable. Alix se laisse glisser de son tabouret pendant que le blaireau se tient le ventre, secoué d'un gros rire gras. Alix s'échappe à reculons et elle sent la patte chaude de Madame Ours qui se pose sur son épaule. « Viens par là, il vaut mieux que tu t'en ailles », lui dit Madame Ours doucement. Elle la prend dans ses bras chauds et l'emmène jusqu'à la petite fenêtre au-dessus des fourneaux. « C'est trop dangereux ici pour une toute petite fille comme toi. File, avant qu'ils ne se rendent compte que tu n'es plus là. » Alix s'enfuit dans la forêt et son cœur bat fort dans sa poitrine. Elle n'a plus peur maintenant, mais la colère lui fait serrer fort les poings. Son corps est secoué de sanglots sans larmes. Elle se blottit dans la cabane, aux libellules sous le houlier. Elle se roule en boule et frappe fort les feuilles mortes du plat de la main. La nuit du quatrième jour, la colère fait naître dans la gorge d'Alix son terrible rugissement de bête sauvage. Quand Alix se réveille, la colère est toujours là, collée partout. Au creux de ses mains, au fond de son ventre, au milieu de sa tête, ça brûle, ça démange, ça pique. Et Alix ne pense qu'à une chose, aller combattre le grand loup blanc aussi qu'eux. Elle va leur apprendre à tous ces animaux qu'elle n'est plus une petite fille, qu'elle est forte et brave comme une bête sauvage. Elle va défier le roi de la forêt, elle gagnera, elle deviendra à son tour la reine. Et plus personne ne se moquera de sa toute petite voix. Par ici, grille les sautillons dans les roseaux. Continue tout droit, croissent les crapines au bord du ruisseau. C'est à droite, après les meuflets, bavent les scorgatins, sous les feuilles mortes. Alix suit toutes ses indications et arrive à l'orée d'une clairière. Tout est silencieux. Ici, même les oiseaux craignent de chanter. Alix avance sur la pointe des pieds jusqu'au centre de la prairie. Un gros souffle sort d'entre les arbres. Deux yeux jaunes s'allument dans la pénombre et un loup gigantesque s'avance dans la clairière. « Que vient faire une si petite fille par ici ?» dit le loup. Et sa voix grogne et cogne, et les poils sur le dos d'Alix se hérissent tout d'un coup. « Je suis une bête sauvage et suis venue te battre !» dit Alix. Mais la peur qui vient de se réveiller dans son ventre empêche son cri tout neuf d'être aussi féroce qu'elle le voudrait. Le loup s'assoit et se lèche la patte droite qu'il passe ensuite bien tranquillement derrière son oreille. « Moi, je n'ai pas du tout envie de me battre contre toi. » J'ai d'autres choses à faire et je viens de finir ma toilette. « Je suis une bête sauvage et je suis venu te battre !» répète Alix du plus profond de sa poitrine. Cette fois, les feuilles des arbres frémissent en un chuchotement terrifié, mais le loup blanc ne fait que soupirer. « Tu es têtu. Tant pis pour toi. » Alix et le loup se regardent, leur dos se courbe et leurs dents se montrent. Ils s'apprêtent à se sauter dessus quand un hurlement incroyable retentit. Alix se retourne. Dans son dos, une bête monstrueuse est apparue. Son corps est fait d'ombre et de peur. Ses yeux sont féroces et son souffle cruel. Dans un lambeau fracas de crocs et de griffes, elle se jette sur Alix d'un seul bond. La bataille est terrible. Alix et la bête bavent et grondent, crissent et sifflent. Elles sont tellement entremêlées qu'on ne sait plus qui est où et où est qui. Toute la forêt tremble et l'ombre de la bagarre se propage à des kilomètres à la ronde. La bête est immense, mais Alix est furieuse. Elle hurle de toutes ses forces d'un cri si sauvage que la bête hésite un instant. Alors la bouche ouverte d'Alix se referme sur l'ombre et la dévore. Elle l'avale bouchée après bouchée. D'abord la gueule, puis la fourrure, la queue et même les griffes. Jusqu'à ce que l'écho du cri d'Alix s'éteigne et que les silences retombent sur la forêt tout d'un coup. Le loup blanc s'approche d'Alix et il n'a plus l'air si féroce maintenant. Ses yeux jaunes sont doux et sa fourrure a l'air si confortable. Alix n'a plus peur de lui. Elle est juste terriblement fatiguée. Alix sent dans son ventre l'ombre tourner et se retourner. Elle pose la main sur son estomac et l'ombre se roule en boule. « Parfois, je ne suis plus si sûr de vouloir devenir une bête sauvage, » dit Alix. Elle se blottit au milieu des six queues du loup blanc et l'ombre dans son ventre se blottit avec elle. « Parfois, il n'y a pas besoin de décider, » dit le roi de la forêt. Alix tend l'oreille. Tout au fond de son corps, l'ombre s'est mise à ronfler. Elle lève la tête et autour de la clairière, la famille du grand loup est là, qui la regarde sans rien dire. Ils sont tous présents, les frères, les sœurs, les oncles et les tantes, et tous les fils et les filles du roi de la forêt. « Et ta meute à toi, où est-elle ?» demande le loup blanc à Alix. « Elle me manque, » dit Alix en pensant à papa et à maman, à Adèle, Nico et Sam. « Ne t'en fais pas, tu vas les retrouver, nous allons te raccompagner jusque chez toi. » Et les trois plus jeunes fils du roi loup viennent frotter leur tête contre les jambes d'Alix et lécher ses mains de leur petite langue toute rose. « Mais d'abord, » rugit le roi en riant, « nous allons festoyer. On n'a pas vu de bataille comme ça depuis des générations de doublons. Et Alix rugit avec lui. Le roi loup claque deux fois des doigts de la patte gauche. La nouvelle du festin se répand en quelques instants. Bientôt, la forêt entière est rassemblée. Tout le monde a apporté quelque chose à boire ou à manger. Les araignées tisseuses filent à toute vitesse des nappes de pique-nique à carreaux rouges et blancs. Les écureuils volants étalent devant eux leur meilleure récolte de noix fondantes. Madame Ours sert les boissons dans de grands bols dorés. La cigrelette a amené toute sa famille et elle offre à Alix un bouquet de jolies fleurs arc-en-ciel. Le miel à fines bulles coule à flot et le gros blaireau prend Alix sur ses épaules pour danser la valse empilée. La fête dure tout le jour et tard dans la soirée. Au milieu de la nuit, les animaux commencent à fatiguer et s'assoupissent un par un sur l'herbe tendre de la clairière. Quand tout le monde s'est endormi, le roi loup prend Alix sur son dos et la ramène à la maison, comme promis. La nuit du cinquième jour, le roi loup dépose son précieux chargement sous la couette nuage d'une chambre chaude et douillette. La lune est rousse et Alix et son ombre sont déjà en train de rêver. Ce livre s'appelle « Les bêtes sauvages grandissent la nuit ». C'est écrit par Lucie Desoblio, illustré par Marianne Schneider. Et pour s'en remettre, on va écouter un petit peu de musique avec l'abécédaire de Boris Vian.
Ma lettre préférée, moi, c'est le F. François et ses frères font gaiement la farandole, autour d'un feu de fagots flambant. La farandole, c'est fatigant, la farandole, c'est fatigant.
T'aimes les gâteaux, toi ?
Ah oui, mais uniquement les gros.
Les gros gâteaux. Le G.
Gaston goûte un gâteau garni de grains de groseille. Gaston se gave trop. Gaston sera très gras et gros.
Ce qui est pénible avec le H, c'est que ça s'entend pas du tout.
Bah si. Tu vois ?
En haut de sa hutte, s'est hissé Henri. En haut de sa hutte, s'est hissé Henri. Que la lune est haute, se dit notre ami. Que la lune est haute, Henri.
Je connais quelqu'un, Eric avec des i.
Irma ira dans l'île, y chercher des iris, digue-donda, dondaine, et des petites fleurs de lys, et des volubilis.
John!
Ah oui, Joseph!
Et tu viens y jouer?
Au jardinet?
Joseph joue au jacquet avec le jeune John dans le joli jardinet plein de jacinthes jaunes. Une pie qui passe,
une autre pie qui part.
Joyeuse jacasse,
oh, joyeuse jacasse.
Jouons, jouez dans le joli jardinet.
Et voilà, on avait besoin d'un petit peu de légèreté,
oui,
n'est-ce pas ?
Oui.
La légèreté qui nous est offerte par Debout sur le Zinc, qui interprète donc l'abécédaire de Vian, avec cette fois-ci les lettres F, G, H, I, J. Alors vous l'aurez compris, hein, on ne diffuse pas toutes les lettres, donc les lettres D et E sont quand même aussi présentes. On a choisi qu'elle ait une petite sélection. On revient deux minutes quand même sur l'album que je viens de lire, hein, Les Bêtes Sauvages.
On ne peut pas rester comme ça.
Grandissent la nuit. Faut vraiment souligner la qualité du texte, hein, vous l'avez entendu, de Lucie Desoblio. C'est assez rare quand même qu'un texte aussi long tienne, je trouve, tout le temps d'une lecture comme ça complète. C'est vous dire vraiment la qualité de ce texte. Lucie Desoblio, elle avait déjà écrit un roman pour adultes, hein, qui s'appelle La nuit sera belle. C'était publié chez Actes Sud en 2017. Et c'est là son premier texte pour les jeunes.
C'est bourré de références. Hein.
Ouais,
Moi, j'ai vu Chien Bleu, Nadja aussi, mais une série que j'ai regardée, dans les, ce qui se passe dans les Vosges, une série française qui se passe dans l'univers et tout. Je suis quasiment sûre que cette autrice a... On a l'impression qu'elle a pioché des influences à gauche, à droite et tout pour en faire son histoire et c'est magnifique.
Et puis un très beau vocabulaire de la nature aussi,
oui,
les, que ce soit les plantes, les animaux, les oiseaux, enfin, vraiment tout est choisi et ça passe et on comprend en fait, même si on ne connaît pas ces termes, par la force. Puis c'est vrai que la force de la légende, ce loup là, il est magnifique quand même.
Puis ça fait du bien de voir un album où on traite vraiment la colère mais telle qu'elle est en fait, sans chercher à la calmer et en laissant juste... les émotions aller.
Ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment très très beau.
Et du Miyazaki aussi un petit peu dans.
Oui, je crois qu'il y a plein de références.
Bah, c'est pour ça, c'est ouais, c'est.
Quand c'est bien, c'est que c'est normal, c'est que c'est tellement super. Mm. Et puis vous le voyez pas à la radio, mais je vous invite vraiment à découvrir les illustrations de Marine Schneider, qui encore une fois sont magnifiques. Alors Marine Schneider, évidemment, beaucoup l'ont découvert avec Éclat et Lucky, qui a été publié il y a 2 ans et qui a gagné la Pépite d'Or à Montreuil l'année dernière. Chez Albin Michel, mais je vous invite vraiment à retourner voir ses premiers albums, notamment Tu t'appelleras Lapin, qui a été publié chez Versant Sud. Et je trouve que dans. Enfin, ça m'étonne pas qu'elle illustre ce texte, puisque dans Tu t'appelleras Lapin, il y a tout justement
un univers onirique. Comme
un
ça,
univers onirique autour de la forêt, nature, de, ouais. du rapport aux animaux, qui est déjà présent.
La sauvagerie.
Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai lu le texte pour la première fois, j'avais pas vu qu'il y avait une autrice qui n'était pas Marine Schneider. Enfin, pour moi, c'était déjà écrit par Marine Schneider. Donc, c'est dire que ce texte
qu'elle
a rencontré
imprimé,
vraiment.
Ouais.
Bah, en tout cas, les deux se sont vraiment très, très bien rencontrés. Et ça fait vraiment un album magnifique, très grand en plus, en grand format, avec un très beau, très belle couverture rose fluo, un peu comme il y avait eu le orange fluo dans Éclat et Lucky. Je trouve que là, on retrouve vraiment ces beaux aplats de Marine Schneider. Voilà, c'est un coup de cœur, on va le dire. Allez, on enchaîne, c'est vous, Véro, qui allez vous...
Et oui,
on
avec
un petit roman jeunesse.
Un petit roman de la collection Le Grand Bain du Seuil, que j'aime
Seuil.
Beaucoup, avec son petit poster quand on déplie la couverture. Et en plus, les illustrations sont un croquis. Donc c'est Presque perdu, ça s'appelle, d'Hervé Giraud et Aurélie Castex. Et c'est l'histoire d'Émile, qui est en vacances au bord de la mer avec des tas d'enfants appartenant à des tas de gens. Copains, cousins, parents, grands-parents, parents de ses parents, enfin bon bref. C'est une joyeuse bande un peu bruyante qui court dans toute la grande maison et renvoie un tableau charmant. Jusqu'au jour où on ramène un enfant de plus en plus de la plage. Cet enfant, il est petit, il pleure, il ne semble pas parler le français, il parle le « what the fuck ». Comme dit Émile en répétant les mots de la copine anglaise de sa mère. La communauté est bien embêtée, surtout que c'est Tintin, le grand-père un peu bizarre, qui a ramené cet enfant par erreur. Tout cela risque de finir à la gendarmerie. Alors moi vraiment, vraiment, je m'amuse pas toujours hein, sur des romans de cette tranche d'âge. Voilà. Et là, je me suis vraiment amusée. Je voulais absolument savoir ce qu'il allait en être. En même temps, il y a une très grande sensibilité dans l'écriture. Et la narration, la première chose qui sort, c'est l'humour. C'est vraiment très drôle. C'est irrésistible, à la manière des diatribes du petit Nicolas, un petit peu. Mais bien actualisé et avec des réflexions très profondes, presque bouleversantes parfois. Des réflexions d'enfant, quoi. Et c'est un livre qui se dévore dès qu'on sait lire, peu importe l'âge, on s'en fout complètement. C'est une très belle histoire d'une tendresse infinie. Je voulais un tout petit extrait pour vous montrer le ton. C'est que il se trouve que Émile va se retrouver perdu à son tour dans la forêt. Donc il dit, ils se sont engouffrés. Voilà. Il parle des parents. Ils se sont engouffrés dans les voitures. Ils ont filé dardard, se mettre au sec, sortir le Nutella et faire des grandes tartines. Comme il leur a fallu des heures pour découvrir la présence de Bidule, l'enfant perdu parmi nous, il va leur falloir des heures avant qu'ils se rendent compte de ma disparition. Et ce sera trop tard. J'ai entendu dire un jour que parfois des parents repartaient en oubliant tout, en oubliant les enfants sur les stations-service des autoroutes. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent. À mon avis, les gens qui travaillent dans les stations-service sont des enfants perdus d'autrefois. Comme on ne peut pas faire demi-tour sur les autoroutes, personne n'est revenu les chercher. Ils ont grandi là et ils sont restés. Voilà, c'est juste pour vous donner le ton. C'est très drôle et en même temps, il y a une grande profondeur. C'est petit bijou, petit bijou.
Un autre coup de cœur que vous avez eu, c'est une collection, en fait, plutôt pour les plus grands.
Ah oui, alors, je ne suis pas prête, là, parce collection. Que j'enchaînais, alors, vous ne vous rendez pas compte. Bah, si, parce que là, si. Y a encore... j'ai trop d'émotions, voilà. Non, mais Flora Bouqui, je t'aime. Je lance un...
C'est bien. C'est voilà.
Enfin, j'aime ton écriture, j'aime ce que tu as fait, j'aime cette trilogie, comme pour Médusa, dont je vous ai parlé il y a quelques émissions, déjà. J'ai été envoûtée, mais envoûtée totalement par l'écriture de Flora Bouqui. Boukri. Donc là, il s'agit de Penthesilea. Et l'autre que je n'ai pas là, c'est
Ariadne.
Ariadne, pardon, qui est Ariane en français, on va dire. Voilà. Et là, elle fait renaître ma passion pour les personnages de la mythologie grecque, mais complètement quand j'avais 11 ans ou 12 ans. Elle les rend tellement vivants et modernes, ils sont incarnés de chair et de sang, tellement humains. Juste un petit extrait pour présenter. Penthesilea, je regardais Hippolyte dans ses yeux noirs, je discernais une authentique lueur d'admiration. C'est Penthesilea qui parle. Elle ressemblait beaucoup à notre mère, petite mais solide, le regard vif, une épaisse chevelure brune frisée qui lui faisait comme une crinière folle autour du visage. Hippolyte était ma vraie sœur, ma sœur de sang, mais cette distinction n'avait pas lieu d'être. Nous étions toutes sœurs, nous obéissions à toutes à notre reine et à son conseil. On nous appelait, vous avez deviné, les Amazones. On disait des choses sur nous, que nous étions des sauvages. C'est beaucoup la sauvagerie dans cette émission. Que nous mutilions les mâles et tuions les bébés du mauvais sexe. Que nous nous amputions nous-mêmes du sein droit pour pouvoir tirer à l'arc. Que nous étions sanguinaires, pas même humaines, même pas des créatures des dieux. Nous avions des ennemis partout. Voilà comment commence ce livre de Penthesilea. Donc, elle est la fille de la reine des Amazones. Et c'est une jeune fille en formation de guerrière, une redoutable combattante qui vit dans un pays où il n'y a que des femmes. Et elle voue un culte à Artémis, qui apparaît ici comme une déesse cruelle, en rivalité avec les autres dieux. Et c'est ainsi que Penthesilea et ses sœurs vont partir pour Troie en pleine guerre. Et Hector vient de mourir. Il s'agit d'aller récupérer son corps chez les Grecs avec le roi Priam, le père d'Hector. Moi, j'ai dévoré l'Iliade, hein, je suis une grosse fan. Et je ne connaissais pas... ce point de vue, cette version, et ça les a fait revivre. Et Andromaque et Priam, ou encore Hélène, qu'on rencontre ici, cette fois-ci avec une autre dimension, restent fidèles à mes premières impressions, et c'est ça le vrai régal, quoi. Donc, moi, je n'avais jamais rencontré d'Amazone de près, et je remercie beaucoup, beaucoup Flora Boukri pour cette rencontre, hein, parce que je suis allée avec elle. On rencontre Achille, qui est amoureux de Penthesilea aussi, voilà, et Ariadne. Le deuxième, les 14 Athéniens qu'on livrait à Minos en punition pour la mort de son fils était pour moi resté un mythe, c'était très très loin, un mythe terrible mais un mythe un peu désincarné. En lisant Ariadne, donc Ariane avec son fils et Thésée, je tremble avec eux, j'ai peur pour eux, je me révolte avec Ariane sur la condition des victimes éternelles des puissants qui n'ont jamais cessé d'être et qui sont loin d'être des mythes. Flora Boukri, j'aime votre écriture.
Voilà, un beau cri d'amour, en fait, que Véro vous passe, Flora. Si vous nous écoutez, franchement, prenez tout cet amour, c'est très important. Allez, l'heure tourne déjà. Je vois Philippe qui me fait des signes depuis tout à l'heure. Il n'arrête pas. C'est bientôt la fin de l'émission. On va finir avec toi, Sarah, avec tes deux coups de cœur. Ton coup de cœur en roman ado et ton coup de cœur en bande dessinée. On commence tout de suite avec les ados, avec le retour d'un auteur qu'on aime bien, qui s'appelle Xavier Laurent Petit. Ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu chez les ados, avec le titre « Tout va bien ».
Alors, donc, c'est dans ce roman-là, nous suivons le périple de Nasra. Alors, excusez-moi si j'écorche le nom. Une jeune Ukrainienne qui se voit obligée de quitter son pays à cause de la guerre. L'histoire commence la journée du 24 février 2022. Tout d'abord par le mariage de la sœur de Nasra, puis par le début des bombardements. Dans son roman, l'auteur nous invite à traverser l'Ukraine aux côtés de cette famille forte et soudée qui vont devoir du jour au lendemain tout quitter pour se sauver. On découvre alors à la fois les horreurs de la guerre et la beauté des liens qui se tissent entre les personnes, même à travers les pires moments. Alors pour moi, c'était important de vous présenter ce livre, tout d'abord car c'est un roman magnifique de par l'écriture de Xavier Laurent Petit, qui traite avec beaucoup de délicatesse et de recul des sujets forts, comme dans son livre Be Safe, pour lequel il a reçu le prix Sorcière en 2009. Mais aussi, c'était aussi important pour moi de vous le présenter, car je pense que c'est un récit qui est important de lire aujourd'hui pour réellement prendre conscience de ce qui se passe en fait en Ukraine, et d'autant plus qu'il est vraiment bien écrit à destination des jeunes, et c'est totalement pertinent en fait de le lire.
C'est la force de Xavier Laurent Petit à chaque fois de mêler actualité ou histoire avec des vies de personnages, et c'est vraiment sa grande force, et effectivement dans celui-ci, il le fait très bien. On finit avec votre coup de cœur BD, peut-être ?
Oui, Alors, pour mon coup de cœur BD, j'ai choisi de vous présenter la BD jeunesse des éditions Jungle, tout jaune, écrite et illustrée par Hélène Canac. Alors, c'est l'histoire de Lena et son petit frère Victor, qui vivent dans un monde où le bleu du ciel a été remplacé par le gris des nuages et où le soleil a disparu. Ayant tous les deux été à la, ayant tous les deux été mis à l'abri de la pollution chez leur grand-mère à la campagne, les deux enfants vivent dans une exploitation de tournesol qui se dégrade de jour en jour à cause des rats et des maladies qu'ils propagent. Alors que les adultes se réunissent pour essayer tant bien que mal de trouver la solution, Lena décide d'aller au cœur du problème en partant avec son frère à la recherche du soleil. Alors cette BD aux allures de conte écologique nous fait prendre conscience de l'importance de protéger notre planète avec bienveillance et solidarité. On retrouve à travers les illustrations de l'autrice une rondeur et une délicatesse dans les traits qui n'est pas sans nous rappeler son travail dans les studios d'animation en tant qu'Ama, notamment avec la série Wakfu. J'ai adoré me plonger dans cette BD et je la conseille fortement.
Hélène Canac, c'est vraiment toujours très très beau ce qu'elle a fait. Et c'est vrai que ça fait plaisir de la retrouver dans cette BD toute seule, parce que la dernière fois, elle était accompagnée aussi d'Agnès Domergue en fait, au scénario. Et c'est vrai que cette BD, elle est vraiment très très belle. Merci beaucoup, Sarah, pour nous avoir rejoints sur cette émission.
Merci à vous.
J'espère que
merci
ça s'est bien Sarah. Passé.
Oui.
En tout cas, nous, on était ravis de t'accueillir. Merci beaucoup, Véro, pour tous ces coups de cœur.
Merci, monsieur.
On repasse un petit bonjour à Flora Boucré. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Merci, Philippe, comme d'habitude, pour la technique, pour la régie. C'était parfait, encore une fois. En tout cas, nous, on espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à ce retour de l'émission On lit quoi nous. Nous, en tout cas, on est très heureux de revenir vous parler de littérature jeunesse. On se quitte comme d'habitude en musique avec les lettres WXYZ de l'abécédaire de Borisian. Et puis en attendant, on vous souhaite un très bon mois, plein de belles lectures. Il nous reste encore plein de livres à vous faire découvrir. On verra ça le mois prochain. À bientôt.
Au revoir.
Bonjour, je m'appelle V.
Oh, mais moi aussi je m'appelle V.
Oh, un W.
Le petit William a été bien sage. Il part en vacances dans un beau wagon. Le petit William a été bien sage. Il part en vacances dans un beau wagon.
Ben voilà.
Non, parce que V et W ça s'écrit presque pareil. Non ?
Mais non, Simon.
X comme.
Quant à Xavier, il joue sur la plage du xylophone pour les petits poissons.
Hey Greg, leçon. Hiverna chippé, le yo-yo tibet qui mange un yaourt derrière la maison. Hiverna chippé, le yo-yo tibet qui mange un yaourt derrière la maison. Hiverna chippé, le yo-yo tibet qui mange un yaourt derrière la maison.
Comme le zébu de Zachary.
Non, non, non.
Ah non, on me prévient que c'est le zèbre de Zoé.
Zoé avait un zèbre un peu zazou et plein de zèles. Il s'appelait Ziz et zigzaguait en zézayant. Zoé avait un zèbre un peu zazou et plein de zèles. Il s'appelait Zizi et zigzaguait en zézayant. Zoé avait un zèbre un peu zazou et plein de zèle. Il s'appelait Zizi et zigzaguait en zézayant.
Applaudissez par ordre alphabétique. Anatole, Berthe, Célestin, Désiré, Eugène, François, Gaston, Henri, Irma, Joseph, Clément, Louis, Marcel, Nicolas, Jean, Oscar.